Frère Angelo Lanfranchi, vous êtes italien de la province de Venise. Vous êtes un père carme qui avait étudié l'exégèse. Vous avez été supérieur au couvent de Bruxelles en Belgique. Vous avez été maître des étudiants à Brescia. Vous êtes aussi rédacteur dans l'association culturelle Arca. Et vous participez de façon active au mouvement ecclésial carmélitain qui est dans plusieurs pays. Père Angelo Lanfranchi, est-ce qu'il y a dans votre parcours, dans votre choix, une figure carmélitaine qui vous a illuminé, qui vous a guidé?
Je ne suis pas entré au Carmel grâce à la rencontre avec Thérèse, ou Jean de la Croix, ou la petite Thérèse. Au début de ma vocation, il y a eu la lecture d'un livre de Thomas Merton, La nuit privée d'étoiles, et je ne m'attendais pas à que ce livre m'ouvre cette perspective, voilà, ce désir, cette certitude d'être appelé à la vie religieuse, à la vie consacrée, parce que j'avais 15 ans. Mais le Seigneur avait organisé les choses de telle manière que cela soit arrivé juste au moment où j'avais rencontré des pères carmes dans ma ville. Donc j'ai fréquenté un groupe de jeunes et c'est justement un père carme qui m'a accompagné. Et ensuite, quand le moment est venu, c'est lui qui m'a introduit dans la vie du Carmel. Au Carmel, chacun de nous reçoit un nom. Donc je suis Père Angelo de la Trinité, et ce n'est pas moi qui ai vraiment choisi ce nom, m'a été donné, mais de fait, cela m'a mis à l'unisson, inattendu aussi, avec Élisabeth de la Trinité, donc je me réjouis infiniment d'avoir pu participer à sa canonisation ici à Rome. Et si la petite Thérèse, en contemplant les étoiles, avait découvert que son nom avait été écrit dans le ciel, lorsque Élisabeth de la Trinité est allée rendre visite à la mère prieure du Carmel de Dijon, elle a, ce jour-là, découvert que le ciel est inscrit dans son nom. Élisabeth signifie « maison de Dieu ». Et donc, moi aussi, j'ai fait un peu cette découverte au moment du noviciat de la Trinité. De fait, la découverte que Dieu n'est pas seul, que Dieu n'est pas une énergie, mais que Dieu est une communion de personnes. De cela, j'avais eu une petite intuition au début, mais qui, au fur et à mesure, s'est aussi confirmé et voilà, développé, là un peu mûri aussi grâce à la rencontre avec l'iconographie byzantine, russe, où la Trinité garde une place tout à fait de choix.
Père Angelo Lanfranchi, quand on vous écoute, on entend les étoiles, on entend le ciel, on entend la Trinité. Et puis j'imagine aussi que ce regard, cette vision à l'extérieur, c'est aussi une vision qui se veut intérieure.
Ce auquel le Carmel nous éduque, cette grâce, ce don que l'Esprit a fait à toute l'Église, nous permet de comprendre et de vivre. C'est justement l'unité qui doit y être entre ce qui est extérieur, ce qui est visible, ce qui est épiphanie, et qui est en unité profonde avec ce qu'on est à l'intérieur.
Est-ce qu'on peut dire que l'ordre des Carmes, c'est un ordre justement qui apprend à voir autrement?
Et je pense que le Carmel a reçu une charge, parce que lorsque Dieu suscite un saint, lorsque l'Esprit invente un charisme, c'est justement parce qu'il veut donner quelque chose. Il veut confier une tâche, un travail, une mission. Et voilà, je crois que le Carmel a reçu cette mission, celle que d'aider l'homme à se regarder, on pourrait dire, du côté du cœur. Jean-Paul II, en reprenant le Concile Vatican II, disait « Le Christ, en se faisant homme, le Fils de Dieu, il est devenu homme et il nous a révélé le visage du Père et en même temps, il nous a révélé à nous-mêmes ».
Père Angelo Lanfranchi, vous nous avez parlé tout à l'heure de votre passage par l'iconographie. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'iconographie?
Là aussi, la rencontre avec les icônes est passée à travers la rencontre d'abord avec les visages vivants de l'Église. C'était l'époque de mon adolescence, aux années 70, et je faisais partie d'un mouvement de jeunesse qui justement avait plein de contacts avec l'Europe de l'Est. Et c'est là, un peu en apprenant à connaître ces personnes, que j'ai compris ce qu'est l'iconographie. le père Egon Sendler, qui était un jésuite allemand et qui a été notre enseignant, notre maître, avait écrit un livre très remarquable auquel il avait donné le titre « L'icône fenêtre sur l'invisible ». Donc ce qui rend visible ce qui ne peut pas être vu par les yeux de chair. Et c'est cette dimension de révélation qui rend les icônes, donc l'art chrétien, tellement intéressant, parce qu'elles nous montrent ce qui est vrai, non pas ce qui apparaît.
Père Angelo Lanfranchi, entre les icônes et votre aspect missionnaire, parce que vous voyagez beaucoup, vous voyagez entre autres en Lettonie, vous essayez de diffuser ce mouvement ecclésial carmélitain. Comment faites-vous le lien entre cette attirance pour les icônes et aussi cet aspect missionnaire?
Donc la rencontre avec l'iconographie orientale de l'Église d'Orient a été faite pendant mon adolescence. Ensuite, je suis entré au Carmel. Là, j'ai commencé à avoir la possibilité de suivre des cours d'iconographie. Au moment de devenir prêtre, j'envisageais la possibilité de partir en mission. Et en effet, pendant mes études ici à Rome, j'avais fréquenté aussi l'Institut Le Russicum. J'avais appris la liturgie orientale. J'aurais voulu partir en mission en Orient. Et l'obéissance m'a envoyé en Occident, au cœur de l'Occident, donc à Bruxelles. J'y suis resté 9 ans. Donc c'est à Bruxelles que j'ai rencontré la communauté russe orthodoxe. C'est là que j'ai célébré ma première grande Pâque russe. Et ensuite, je n'aurais jamais imaginé de partir en Lettonie pour aller accompagner l'Église. Et là-bas, dans cette région qui a appartenu pendant plusieurs années à l'Union soviétique. Mais là aussi, il y a eu tout un jeu de circonstances grâce auquel je suis parti à la place de notre frère qui avait été invité prêcher une retraite au tiers ordre carmélitain à Riga. Et depuis lors, je me suis retrouvé là aussi au cœur d'une église petite. Mais c'est un milieu qui est très intéressant, saisissant pour son ouverture œcuménique. Donc cette ouverture à l'unité.
Alors parlez-nous maintenant du mouvement ecclésial carmélitain.
Voilà, après avoir vécu, cheminé on peut dire, pendant une bonne vingtaine d'années avec un autre mouvement ecclésial italien et international, Comunione Liberazione, qui nous a sauvés lors de la grande crise des années 70. Après une vingtaine d'années, nous avons commencé à percevoir que peut-être le Seigneur voulait que nous devenions responsables de façon plus directe, plus profonde de notre propre charisme. Et alors, un peu guidé, accompagné, animé par le père Antonio Sicari, qui a été d'ailleurs aussi notre père provincial pendant quelques années, donc un groupe de pères de la province de Venise, nous avons décidé de nous lancer dans une nouvelle aventure, donc un mouvement ecclésial ouvert à tous les états de vie, aussi toutes les étapes de vie. Donc il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des personnes âgées, etc. On a cette certitude que même si le Carmel, d'un point de vue historique, a commencé par une communauté qui d'ailleurs était laïcale, c'était des laïcs, des soldats, c'était des pèlerins qui étaient partis en Terre Sainte au début du XIIIe siècle. Même si notre histoire s'est développée au fil des siècles, le don du Carmel est pour tous les baptisés. C'est une richesse qui peut être vécue. On peut être vraiment carme, non seulement carmélitain, on peut être intimement, foncièrement carme, même par exemple si on est marié, parce qu'on peut aborder son propre état de vie de façon mystique, et c'est l'enseignement de Thérèse d'Avila. Et les actes de prière visent à que toute la vie soit prière, c'est-à-dire relation d'amitié avec celui qui nous aime, avant nous, avant nous-mêmes. Et donc, ces petites communautés ont grandi autour de nos couvents, d'abord en Italie, et se sont aussi multipliées là où nous, les pères, nous étions envoyés par l'obéissance, par notre ordre à mission, donc en Belgique, au Liban, en Roumanie. Et on a aussi développé notre amitié en Lettonie, justement grâce à ces premiers contacts que j'ai eus il y a une quinzaine d'années. Et depuis lors, pendant l'été, l'église lettonne vit à l'occasion de la fête de l'Assomption de la Vierge un grand pèlerinage, on peut dire, vers Notre-Dame de Aglona. Et nous avons décidé de cheminer ensemble, donc un groupe italo-letton qui nous permet de faire ensemble des pas dans la direction de la croissance dans ce même charisme, dans cette même sensibilité.
Merci Père Angelo Lanfranchi.